des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alors, Alex, ben, dans les nouvelles, faisons-le, le bilan des cas, c'est le plus bas. Je n'ai pas pu retourner voir 660 cas. Il faut remonter, à mon avis, plusieurs semaines dans le passé pour retrouver ça.
Oui, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, j'ai pas exactement la confirmation, là, mais écoute, ça remonte, c'est des cas. On voyait ça à l'automne, quand ça recommençait à remonter, là, les cas. Donc, 662 nouveaux cas qui se déclarent aujourd'hui. 6 décès à déplorer. 4 personnes de plus hospitalisées. 1 personne de moins aux soins intensifs. Donc, ça reste toujours stable. Il n'y a pas de grosse augmentation, gros changement, si ce n'est que la diminution, effectivement, là, des cas. C'est sûr, on est un lundi, on est toujours plus prudent les lundis, mais dans certaines régions, c'est sûr, il y a des bilans qui sont plus positifs, des bilans qui sont plus négatifs. Tu le disais il y a quelques minutes à LCN, là, le Bas-Saint-Laurent, entre autres, 57 nouveaux cas aujourd'hui. Là. Par comparaison, par exemple, Laval a 62 nouveaux cas. C'est très, très similaire et pourtant, on le sait, il n'y a pas la même densité ni la même quantité de population là-dedans.
J'ai déjà notre réponse. On avait passé le cap des 600 cas là, le 24 septembre. Mais, on l'oublie, là, entre les deux vagues, ça avait quand même bien été. Il y a quelques journées du mois de mars, là, autour du 8. Il y a quelques journées durant le mois de mars, on était revenu dans les 600 cas. On avait vu ça, 600 cas. Puis ça a reparti tout de suite, là, de fin mars. Ça a reparti à monter pour la troisième vague.
Ouais, c'était allé vite quand la troisième vague est partie. On a comme perdu espoir.
Mais le passage de 400 à 500 à 600 cas, là, ça s'est passé le 24 septembre. Puis on est passé, les mesures ont commencé le 1er octobre. Puis on est encore dedans. Mais pour ceux qui ont l'impression que ça a duré longtemps, vous êtes pas dans l'erreur.
Mais dans le cas de Montréal, par exemple, aujourd'hui, c'est très bas. 189 nouveaux cas pour la région de Montréal au complet. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça va bien. On espère que la situation va rester stable dans la métropole. C'est surtout dans d'autres régions là, qui sont surtout à surveiller. L'Estrie, entre autres, hein, qui aujourd'hui repassait là, en état d'alerte maximale.
La région Bas-Saint-Laurent a plus de cas que la capitale nationale.
Oui, 57 nouveaux cas aujourd'hui par rapport à la capitale nationale, c'est 48.
Non, c'est ça. Alors que c'est une région beaucoup moins populeuse. Donc, quelques endroits comme ça là, qui inquiètent. Bonne nouvelle en matière de vaccination. On se disait, bon, on avait retardé la deuxième dose au Québec pour vacciner le maximum de gens d'une première dose. Mais il fallait commencer à la donner. Et on a maintenant un groupe complété.
Oui, c'est les résidents des CHSLD là, qui ont reçu. Là, tous ceux qui avaient eu une première dose de vaccin ont maintenant reçu leur deuxième dose. Ça a été annoncé aujourd'hui par la ministre responsable des aînés, là, Marguerite Blais. Une autre bonne nouvelle. Hein, puis on espère en voir de plus en plus de ces buts-là, de ces objectifs psychologiques un peu là, à voir atteints, surtout
au niveau...
Dès
demain, on s'attaque au RPA, aux résidences personnes âgées.
On va avoir les deuxièmes doses partout. Puis c'est vraiment là un peu la boucle qui est bouclée, si on veut, parce que c'est les gens les plus vulnérables de notre société. On le sait, première vague, deuxième vague, les CHSLD qui avaient été mis à rude épreuve, là, c'est là qu'on voyait beaucoup des décès de la province.
On voit quand même l'effet de la première dose, parce que dans la région Bas-Saint-Laurent, dans la vague actuelle, là, c'est rentré dans une résidence. Il y a des gens qui ont été malades, mais tu sais, c'est pas une hécatombe. À ma connaissance, il n'y a pas de décès. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais il n'y a pas de décès. Pas de gens hospitalisés. Il n'y avait pas trop de dernières nouvelles de gens hospitalisés encore. Donc, c'est de la fièvre, de la maladie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec le vaccin, les gens qui ont toujours dit la COVID, c'est une grosse grippe, là, ça devient un peu vrai pour les gens vaccinés. Tu sais, que c'est une grosse grippe avec ses risques, certains qui ont rien, d'autres qui sont malades un peu.
Ça amortit beaucoup, faut
me dire. Oui, c'est ça, mais t'as plus les hospitalisations puis les décès comme on avait dans les résidences pour aînés.
Non, c'est ça, puis en parallèle aussi là tu dis ça commence dans les RPA, mais aussi en parallèle cette semaine, c'est ce que le ministre de la Santé Christian Dubé avait appelé la semaine des jeunes, hein. Là, c'est les jeunes de 30 à 34 ans là, qui peuvent recevoir leur vaccin.
Est-ce que les jeunes là, la question de Paul Larocque versus mes enfants, est-ce que tu penses que les 18-25 vont aller massivement se faire vacciner? Parce que t'as vu ce que les influenceurs, tu vois-tu passer ça, des messages négatifs, ça?
J'en ai vu passer, mais c'est certain, on a tout un chacun notre propre bulle, si on veut, hein, sur les réseaux sociaux. On reçoit du contenu auquel on est intéressé. Hein. C'est ça le problème, si on veut,
c'est
de ça.
C'est les filles là, qui suivent des influenceuses mode, vêtements, qui, à un moment donné, vont passer des petits messages là, anti-mesure. À un moment donné, l'anti-mesure, tu te rends compte, OK, être contre les mesures, les amener... C'est fou, là. Être contre les... Je pense pas que c'est des filles qui étaient nécessairement anti-vaccins.
Mais non, ils sont pas anti-sciences, là.
C'est ça, ils sont pas anti-sciences en général, non. Mais être contre les mesures, les amener sur des sites, sur des qui les a amenés à être contre le vaccin aussi, là.
On a tendance à aller chercher des informations toujours qui vont renforcer notre propre pensée. Alors, c'est sûr que si quelqu'un est frustré, par exemple, contre les mesures sanitaires, va toujours chercher à aller confirmer son biais, si on veut, puis là, trouver des études qui disent que porter le masque, c'est pas si important, des études qui disent que c'est juste une grosse grippe, finalement, etc. Tu sais, puis quand je dis études, je mets des énormes guillemets de ce côté-là. Oui, je l'ai constaté, mais d'un autre côté, là, moi, il n'y a pas personne, honnêtement, là, que je connais dans ma tranche d'âge qui a pas hâte d'aller se faire vacciner. Tout le monde me demande, puis tu sais, Alex, tu travailles dans les médias, c'est quand qu'on peut se faire vacciner, c'est à partir de quelle heure, on peut-tu prendre notre rendez-vous, c'est où, puis les questions affluent. Moi,
et la réponse qu'il faut que tu leur donnes, c'est que c'est vendredi, donc jeudi soir, allez-y, parce qu'à date, c'est toujours la veille au soir. Là.
C'est ça, vendredi, puis moi c'est mercredi, j'ai 25 ans, donc je suis dans cette catégorie-là, mais donc 25-29 ans, mercredi, 18-24 ans, vendredi, c'est la semaine des jeunes, je pense que la réception va être forte, j'ai hâte de voir comment le système de vaccination, je pense qu'on a tout pour que ça tienne le coup, mais...
Il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà réservé sur Clic Santé.
Oui.
Pour leurs grands-parents. Il y en avait plein. Je me souviens du Vox Pop, la journée des 85 ans et plus, là, ou des 80 ans et plus, qui avait été fait. Puis il y en a plein qui disaient, ben là, moi, c'est ma petite fille, là, qui va pris mon rendez-vous, là, je comprenais.
Ça m'étonne pas, mais c'est, je pense que, en espérant, là, jusqu'à date, le site a jamais planté, tout a bien été, mais là, je pense qu'il y a des jeunes qui vont peut-être être un peu plus agiles, si on veut, là.
Oui, non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet là-dessus. L'Estrie, on le mentionnait tout à l'heure, l'Estrie qui repasse au rouge, ça plaît pas à tout le monde. Notamment les restaurateurs, bon, qui au mieux sont résignés, là, mais qui vivent quand même de la frustration.
Oui, parce que ça peut être difficile, là. On avait réouvert, c'était en zone rouge, orange, l'Estrie plutôt. Maintenant, ça retombe en zone rouge, là. Les restaurants, entre autres, livraison et plans emportés, lieu de culte limité à moins de 25 personnes. Dans les zones rouges, on est habitué, là, depuis longtemps, c'est comme ça. Mais en Estrie, c'est sûr que c'est l'alternance, encore une fois, qui revient porter un dur coup. On en a souvent parlé aux restaurateurs. C'est de l'inventaire, là, maintenant, qu'il faut dépenser. C'est bien différent. Salle de, lorsqu'on fait du take-out, par exemple.
Mais là, il y a quand même une différence, c'est qu'il y en a de moins en moins. Il y a des restaurants qui font aucun take-out, il n'y en a plus tant que ça. Là.
Non, c'est sûr que je pense que le système est rodé de ce côté-là.
Et moi, je lancerais, s'il y a des gens de l'Estrie qui nous... Il y en a sûrement qui nous écoutent. Je leur lancerais l'appel de Régis Labeaume. Là. Les 3-4... Oui, commander tout le temps, c'est tout le temps bon de commander là, c'est oui. D'encourager ses restaurateurs, mais jamais autant que les 3-4 prochains jours. C'est vos restaurateurs, on fait leur commande, ils ont leur frigo plein, ils ont acheté leur viande, leurs produits frais. C'est le temps de commander, aidez-les à vider leurs inventaires puis pas juste pour le jeter aux poubelles, là, à le rentabiliser puis sauver une couple de repas de travail cette semaine. Là.
Ouais, c'est sûr. Puis c'est dans ce temps-là que c'est le meilleur temps pour les aider. Moi, je connais beaucoup là de la famille de ma copine. Ils sont tous en Estrie, ils travaillent beaucoup en restauration. Puis justement, c'est quand même un choc parce que pour la plupart, tu sais, qui sont surtout dans le service, hein, aussi là, non, les emplois tous les serveurs, c'est ça, c'est mise à pied temporaire. Oh, on retourne au travail. Oh, on retourne en zone rouge.
Les employeurs, ouais. Ils ont peur de perdre leur main-d'œuvre, que ces jeunes-là ou que ces gens-là qui travaillent en restauration se disent, là, fais toi fois qu'on nous met à pied, ben, s'ils passent une offre d'emploi dans un autre domaine, ben je vais la prendre. Puis quand les restaurants vont rouvrir pour l'été, qu'il manque de personnel. Là.
C'est l'incertitude, ça peut tuer dans ce cas-là, là, vraiment, là, des gens qui adorent leur métier, mais des fois qui, pour subvenir à leurs besoins, même s'il y a des aides encore financières, là, gouvernementales, qui n'ont pas le choix de se tourner vers d'autres corps de métier.
Ben, on vous souhaite bonne chance aux gens de l'Estrie, puis encouragez vos restaurateurs. C'est le temps de commander comme jamais. Des places temporaires de garderie, c'est le ministre de la Famille qui a annoncé ça ce matin. En fait, qui a annoncé un projet en Gaspésie, mais qui en a fait un peu de son projet un modèle.
Là. Ouais, c'est un nouveau concept, là, des garderies temporaires. La création de garderies comme ça, essentiellement, c'est installer des enfants dans des locaux d'une municipalité pour une durée indéterminée, là, en attendant qu'un projet de construction ou d'agrandissement des CPE soit réalisé, prêt à accueillir des jeunes. Donc, c'est une solution qui vient évidemment là pour pallier à la grande pénurie de places à offrir là dans les CPE en ce moment au Québec. Évidemment, là, Mathieu Lacombe, qui lui, c'est le ministre qui se défend de préconiser là, un système qui serait à deux vitesses pour les enfants, mais la liste d'attente est toujours longue. On est à 51 000 noms. Les listes d'attente qui sont souvent là impossibles. Dans ce cas-ci, on veut vraiment, là, en attendant, parce qu'il y a des grands projets pour réformer, reconstruire, construire même des centres de la petite enfance, mais en attendant, il y a moyen, c'est ce que dit le ministre de la Famille, de trouver des places donc temporaires dans les locaux des municipalités, puis des locaux évidemment qui vont devoir rencontrer toutes sortes de
mais
normes.
Il semble que toutes les sortes de locaux, ouais c'est ça, mais vous avez des locaux de municipalités qui seraient même presque une entreprise, une grosse entreprise qui avait des locaux puis qui a des c'est que les employés ont beaucoup des enfants à faire garder. On pourrait le faire dans les locaux d'une entreprise. Quiconque peut fournir des locaux évidemment adéquats, là, sécuritaires puis appropriés pour des enfants.
Ouais, ouais,
mais
ça...
qu'on est ouvert à ça. Et d'abord, c'est qu'on crée les places en garderie pendant que le chantier de construction du nouveau CPE opère. On crée la place à garderie dans un local temporaire, puis on embauche le personnel, puis évidemment les places vont être transférées dans le vrai CPE quand il sera fini de construire et d'aménager. Je sais juste pas, pour moi là, une des questions, c'est est-ce qu'on va aussi en parallèle utiliser, parce qu'il y a beaucoup de garderies privées qui ont des places non subventionnées, une place à 40 quelques piastres, 50 piastres, mm-hmm. Un comptable nous dit toujours, ouais, mais quand les gens reçoivent leur crédit d'impôt, ça revient au même que la place subventionnée. Mais ça, c'est la comptabilité théorique. En pratique, dans le budget familial, les gens se disent, ben moi, j'aime mieux payer 8 piastres et demi ou 9 piastres que payer que 50 d'être remboursé plus tard. Mais il y a de ces garderies-là qui disent, ben nous, le gouvernement, là, qui prennent des places chez nous et qui les transforment en places subventionnées. Alors, est-ce qu'on va le faire aussi ça comme façon de générer des places vite? Parce que là, t'as des garderies qui existent, qui ont déjà des locaux, qui ont déjà du personnel, qui ont déjà tout, qui demandent juste à voir transformer leur place en place subventionnée. Finalement, Google qui s'installe au Québec.
Oui, qui ont annoncé lundi là la grande multinationale évidemment qui veut acquérir un terrain à Beauharnois pour bâtir un centre de données là qui coûterait plus de 735 millions de dollars qui habiterait là une trentaine d'employés là dans ce centre de données là.
C'est sûr que le ratio investissement emploi, tu te rends compte, c'est de l'électricité qu'ils viennent chercher au Québec. On en a, mais je veux dire, normalement, pour un investissement comme ça, t'aurais 1000 emplois, là.
Oui, c'est ça. Mais il y a 1000 emplois quand même déjà de Google, hein, parce qu'ils veulent avoir leur nouveau bureau là sur la rue Vigée, ici à Montréal. Puis ça, c'est censé avoir près de 1000 emplois là dans cet endroit-là. Okay. Mais pour un centre de données comme ça, vraiment, là, c'est pas un centre avec un service à la clientèle étendu et tout. Là, c'est vraiment juste
des
un
serveurs.
Centre. C'est des serveurs. On veut héberger des données. Puis tu l'as dit, c'est vraiment...
Ça prend du jus pour les serveurs. Ça prend du jus pour le refroidissement des serveurs.
Exact. Puis toute cette belle électricité-là, ben, elle vient de notre hydroélectricité ici au Québec, qui est fiable, qui est pas chère. Évidemment, ça penche dans la balance. Puis ça deviendrait, si ça fonctionne, le premier centre de données de Google au pays, au complet, qu'on aurait ici au Québec, c'est certain. Ça consomme énormément d'électricité. On s'en rend de plus en plus compte, hein, dans les dernières années, là, à quel point les serveurs, ça consomme, ça a besoin, là, d'énergie pour bien fonctionner. Donc, c'est sûr que ça prendrait, en plus des 30 emplois, en plus 300, 500 emplois pour construire ce centre de données-là. En attendant, donc, il y a aussi des compensations de Québec qui sont prévues là, pour minimiser l'impact, entre autres sur les zones agricoles qui vont être prises pour faire ce centre-là.
Merci, Alex.